C'est vrai que souvent aussi, par naïf, on entend un peu sentimental. Mais là, on est vraiment très éloigné de cela.
Alors ça, c'est un autre aspect sur sur au fond, les principaux conseils qu'il faut donner à tous les auditeurs qui vont essayer de faire ces pratiques. Je crois que un des grands pièges qui peut vraiment empêcher quelqu'un de faire ces pratiques, c'est d'imaginer que ces pratiques doivent être très émotionnelles. Elles peuvent être très simples. La vérité de l'amour n'est pas l'intensité de l'émotion qu'on ressent. On peut ressentir de très fortes émotions et que ce soit complètement égarant. Nous avons tendance à croire que si je ressens quelque chose de fort, c'est vrai. Mais alors, à ce moment-là, le summum de la vérité serait le film d'horreur. Non, pas du tout. Ce que nous ressentons n'est pas toujours vrai. Il y a des erreurs de raisonnement, ça on le conçoit bien, mais il y a des erreurs d'émotion, et des émotions qui sont fausses. Ce qu'on ressent n'est pas toujours vrai. C'est pas parce que je ressens quelque chose que c'est nécessairement vrai. Et je crois que ces méditations nous aident à être moins prisonniers de l'émotionnalité. Mais aussi, de l'autre côté, à avoir moins peur de l'émotionnalité. Car d'un côté, si l'émotion n'est pas le critère que nous faisons ces pratiques pour de bon, le fait que nous ayons des émotions intenses n'est pas non plus le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que nous puissions accueillir qu'il y a des moments dans ces pratiques où nous nous sentons extrêmement bouleversés, émus, touchés. Et je crois que c'est vraiment important aussi de dire cela. Vous pourriez, en faisant ces pratiques, être submergé par des émotions. Et c'est pour ça qu'il est très important de contrebalancer la pratique de la bienveillance aimante avec la pratique de la pleine conscience qui aère cette intensité émotionnelle. D'un certain côté, encore une fois, ce n'est pas le critère, mais d'un certain côté, il est possible que certaines pratiques de la bienveillance aimante intensifient notre émotionnalité, nous fassent toucher le manque d'amour en nous, et que ce soit extrêmement poignant. Et c'est bien de le découvrir, parce qu'en le sentant, on voit un peu plus clairement ce qui nous arrive, ça nous donne plus de clarté, de lucidité sur notre état d'être et l'état de notre cœur, et ça nous montre plus clairement le chemin que nous pourrions suivre. Mais c'est bien de l'aérer avec la pratique de la pleine conscience, de prendre le temps de revenir au moment présent, de sentir son corps, de revenir à son souffle. Il faut éviter de s'intoxiquer dans l'émotionnalité. Donc, ne pas avoir peur de l'émotionnalité, mais ne pas l'identifier non plus avec le sens du chemin.
J'aimerais maintenant voir avec vous la pratique en elle-même et ses difficultés. Peut-on travailler sur l'amour? C'est vraiment un discours dont nous n'avons pas du tout l'habitude. Et en quoi l'amour bienveillant est une pratique?
Ah ça, je crois que vous mettez vraiment le doigt sur la principale difficulté. Parce que nous sommes au fond presque tous convaincus, soit j'aime, soit j'aime pas. Et que rien ne serait pire que de se forcer à aimer. Au fond, nous sommes tous d'accord et nous acceptons tous que l'amour, c'est pas nous qui le décidons. Et c'est au fond ça la merveille de l'amour. C'est ça vient, on le reconnaît, mais c'est pas une question de volonté. Et ça, c'est vrai, je ne veux pas du tout nier la chose. Mais pourtant, on peut travailler, s'entraîner, apprendre à ouvrir son cœur, apprendre à aimer davantage. Mais il ne s'agit pas de jouer quelque chose et de se forcer. Il s'agit peut-être plutôt de désapprendre la manière dont nous nous sommes enfermés, car le paradoxe, c'est que nous avons recouvert notre cœur d'une chape de béton sans nous en rendre compte. Et que la pratique vise à cesser juste de mettre une couche de plus de béton sur notre cœur. Et vous avez remarqué, même si vous habitez en ville, que même là où on a mis beaucoup de béton, il y a des herbes toutes simples qui réussissent à effriter le béton. Même là où nous mettons une chape sur notre cœur pour essayer de ne pas trop ressentir, il y a des pousses de bienveillance aimante qui viennent au jour. Et on se rend compte alors que la pratique de la bienveillance aimante vise non pas à nous apprendre quelque chose, mais à nous désapprendre les mécanismes que nous avons déployés contre l'amour. Par exemple, combien de fois dans une journée nous nous disons quel idiot je suis, là, vraiment, je suis le dernier des crétins, non mais là vraiment j'y arriverai pas. Il y a quelques jours j'étais dans le métro et puis il y a une parce que j'habite Paris, et il y a une femme qui a dû louper sa station de métro. Elle a crié très fort, c'était complètement étonnant dans tout le wagon. Ah mais quelle idiote je suis! Mais vraiment je suis trop bête! On s'est tous retournés pour la regarder, mais j'ai souri parce que combien de fois ça nous arrive de nous dire ces mots à nous-mêmes? En fait, si on mettait un micro à notre esprit, on serait étonné, si on pouvait enregistrer comment notre esprit nous parle, on serait étonné de la violence avec laquelle nous parlons si souvent. Et c'est vraiment, pour nous, tout à fait, entre guillemets, naturel. En fait, il n'y a aucune raison de se parler si durement. Donc la pratique de la bienveillance aimante semble indiscutablement, au premier regard, artificielle. Mais cette artificialité vise à nous aider à retrouver quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus naturel, que nous avons perdu par des tas d'automatismes inaperçus que nous employons et qui sont vraiment d'une grande dureté. Nous sommes vraiment extrêmement durs avec nous-mêmes. Donc je crois que ça nous semble forcé parce que nous avons perdu l'habitude d'essayer de cultiver la bienveillance aimante. Et je crois que il faut laisser tomber cette idée.
On peut cependant avoir le sentiment que cette pratique est artificielle.
Oui, mais encore une fois, elle semble artificielle parce que nous avons une idée très naïve de ce qui ne l'est pas. Et nous ne considérons pas artificielle une manière de nous parler très durement, de nous couper de l'amour, qui en réalité l'est. Il n'y a aucune raison de se parler aussi durement. Donc, je crois qu'on peut réussir à comprendre que s'entraîner à aimer, c'est retrouver un état naturel, hein, quelque chose de tout à fait spontané et simple. Et qu'il faut, je crois qu'il faut vraiment abandonner cette idée d'artificialité qui nous fait peur.
Et que faire si au départ, finalement, on n'y arrive pas? Je pense notamment à cette méditation où on doit se trouver une qualité, sentir qu'on a été aimé, penser à une personne vers qui envoyer de l'amour. Comment faire si on ne trouve rien, si rien ne nous vient
Ça, c'est très important. En effet, pour diriger souvent ces pratiques, il y a toujours un grand nombre de personnes qui n'y arrivent absolument pas. Et c'est vraiment... faut juste entendre qu'il s'agit de pratique. Une pratique, c'est pas quelque chose que vous devez réussir, c'est quelque chose que vous apprenez à faire. Et je crois qu'on peut apprendre pas à pas à retrouver un rapport plus vivant et ample à l'amour. Et que ces pratiques, on ne les fait pas parce qu'on s'est déjà aimé, on fait parce qu'on veut retrouver l'ampleur de l'amour. Et je crois que ça, c'est vraiment décisif. Le grand obstacle, c'est de croire qu'on sait tout de l'amour. Je crois que tant que quelqu'un sait qu'il n'est pas dans l'amour de manière parfaite, au fond, tout va bien. Parce qu'il est au travail et qu'il va se remettre en question. C'est comme quand quelqu'un est en colère. Si quelqu'un est en colère et vous dit « Excuse-moi, je me suis mis en colère », au fond, c'est déjà pas si grave. Mais si quelqu'un est en colère et dit « J'ai vraiment raison d'être en colère, je peux plus supporter comment tu es », la situation est un peu plus verrouillée. Eh bien, c'est un peu la même chose. Savoir que on n'est pas amplement parfait dans l'amour, c'est formidable. C'est être humain. C'est savoir qu'on peut avancer. C'est savoir qu'il y a un chemin. Moi, je suis très frappé. Je trouve que ce qui fait souvent le plus défaut dans notre monde, c'est l'idée d'un chemin. C'est vraiment, on y est ou on n'y est pas. On y est tant mieux, on n'y est pas tant pis. Et je trouve que c'est pas juste. pour tout ce qui est essentiel, il y a un chemin pour apprendre. Et aimer, ça prend. Et donc, si vous ressentez rien, ne vous en voulez pas. C'est vraiment pas un problème. Et encore une fois, l'intensité de ce qu'on ressent n'est pas le signe qu'on entre vraiment dans la pratique. Le signe qu'on entre vraiment dans la pratique, c'est qu'il y a quelque chose qui devient plus souple, plus tendre, qui nous rend plus sensibles, qui nous rend moins effrayés de notre propre vulnérabilité, qui fait que le fait d'être touché cesse d'être un problème ou une faute, nous rend juste plus humains. Je crois que ces pratiques nous rendent beaucoup plus humains. Et si vous ne ressentez rien, accueillez que vous ne ressentez rien. N'essayez pas de vous conformer à un modèle, à une idée que vous avez de la pratique. Ce que vous vivez est ce que vous vivez. Ça, c'est vraiment le cœur de la pratique, avoir la bienveillance pour ce que nous éprouvons. Et donc, si vous n'éprouvez rien, vous n'éprouvez rien.
Est-ce que si on a eu une difficulté une fois dans la pratique, et par exemple la première fois qu'on fait justement une des pratiques, est-ce que ça veut dire qu'on rencontrera des difficultés à chaque fois, ou est-ce que justement tout peut changer?
Absolument, tout peut changer, tout est différent à chaque fois. Et ce qui est vraiment crucial, c'est laisser tomber les idées que vous avez sur ce que vous devriez éprouver. C'est affreux comment nous sommes formatés dans des modèles. Par exemple, vous pouvez aimer quelqu'un, mais ne pas sentir un flot d'amour envahissant. Et vous peut-être vous en voulez parce que vous avez l'impression que si vous aimez, vous devriez sentir quelque chose de très intense. Non. Peut-être l'amour peut prendre plein de visages différents selon chacun d'entre nous. C'est vraiment important de cesser de vouloir répondre à des idées que nous avons sur l'amour. Et si la pratique permettait au moins cela, de nous permettre d'accepter que notre manière d'être est notre manière d'être, je trouve que ce serait déjà une aide extraordinaire.
Que faire, par exemple, si son esprit vagabonde trop, c'est-à-dire on perd même le fil de la voix?
Ah, ça, c'est tout à fait... une expérience commune. D'abord, première chose, bien sûr, de la même manière que dans la pratique de la pleine conscience, il y a des moments où on est perdu. Dans les pratiques de la bienveillance aimante, il y a des moments où on est perdu. Et il faut juste revenir, je crois vraiment, au ressenti corporel, à ce que vous ressentez. Revenez simplement à votre expérience, ce que vous ressentez, à votre cœur. Et de la même manière que dans la pratique de la méditation, on revient, par exemple, au souffle, là, nous revenons à notre cœur, et c'est tout à fait normal.
Et une fois de plus, il ne faut pas s'en vouloir.
Absolument.
Vous nous disiez tout à l'heure qu'il fallait accueillir ses émotions. Si pendant la pratique, cependant, on est complètement submergé par ses émotions, mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Je dirais, la première chose, c'est vous pouvez juste essayer de revenir à votre souffle, et ventiler l'intensité émotionnelle. Si vous sentez que c'est trop fort, inspirez, expirez. Revenez simplement à ce sens d'espace. Mais dans le même temps, je crois qu'il est important de dire aussi, il est bon à des moments d'entrer en rapport à ce qui nous blesse. Il est bon de toucher même des émotions très fortes qu'on a peut-être essayé d'éviter. On parlait précédemment du grand danger, cette illusion spirituelle d'être toujours dans la sérénité. Et donc, si on est d'un seul coup envahi de sanglots, qu'on touche une blessure qu'on avait oubliée, on a l'impression que c'est mal. Non, je crois que là, il y a aussi un processus qui peut être de guérison. C'est à chacun de voir. Donc, c'est vraiment à chacun de voir s'il faut ventiler cette expérience. Ne pas se faire de mal, ou si il faut avoir un certain courage d'explorer quelque chose pour pouvoir nous en délivrer et avoir plus de clarté. La méditation de l'amour bienveillant peut vraiment nous aider à nous apaiser de manière très profonde. Enfin, il y a un dernier aspect qui peut nous troubler. Il y a un aspect que vous avez souligné du côté un peu artificiel de la pratique, parce qu'on n'a pas l'habitude de cette idée d'un entraînement du cœur. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui peut déconcerter, c'est que ces pratiques reposent sur donner droit au pouvoir ou à la ressource de l'aspiration. Il y a de nombreuses pratiques où on dit « puis-je ». On donne droit à cette aspiration. Et on a peu l'habitude de ça. Et je crois que c'est vraiment important de réussir à se dire, mais en fait, sans nous en rendre compte, on a plein d'aspirations. Elles sont souvent tout à fait égoïstes et étroites et un peu mesquines. Comme je le dis à un moment, je voudrais un peu plus de chocolat. Comment je peux gagner un peu plus d'argent? Comment je peux avoir un peu plus de ça, un peu plus de ci? Et sans s'en rendre compte, parce que vraiment, on ne voit pas le phénomène. On vit dans quelque chose qui est un peu étroit. Je donne ces exemples pour montrer que l'aspiration, au fond, n'est pas une pratique étrangère. Nous avons sans cesse des aspirations, mais elles sont étroites. Et ces pratiques visent à nous aider à avoir des formulations et des aspirations amples, grandes. Je crois que c'est vraiment très aidant. Et l'autre point qu'il faut vraiment souligner, c'est pour nous, il n'existe que le projet. On ne se rend pas compte que nous avons des aspirations et nos idées, c'est si je veux la paix dans le monde ou trouver le bonheur ou que les autres trouvent le bonheur, c'est un projet, comment je vais le réaliser? Et on est tout de suite dans une sorte d'effectivité. Et là, on est complètement dans un autre ordre, on est dans l'ordre de l'aspiration du cœur qu'on reconnaît. Et je crois que c'est vraiment important de distinguer le projet qui impose une structuration effective de l'aspiration qui est le chant du cœur. Vous voyez, si je suis en colère pour toute la journée, ma journée va être teintée de cette colère. Et si au contraire, j'essaye de donner droit à l'aspiration que ma journée soit bénéfique pour tous les êtres, ça va teinter ma journée. Et je crois qu'on pourrait retrouver le sens bénéfique de cette aspiration. Et je crois vraiment que si chacun donne droit à la bienveillance aimante, aspire à donner droit à la bienveillance aimante, cela va changer l'état d'esprit de chacun et le monde tout entier.